Bonjour, vous écoutez Nos Limites Sécu, podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, notre invité sera Paul Rascanière, avec qui nous allons parler de reverse engineering. Bonjour Paul.
De rétro-ingénierie, non, c'est plus joli.
De rétro-engineering, c'est ça.
Non, de rétro-ingénierie, et non pas d'ingénierie à reculons, comme j'ai vu écrit bizarrement dans certains papiers. Ça veut vraiment rien dire. Hein.
Donc, alors, avant de commencer, je souhaiterais quand même vous indiquer que les premiers 2 et 3 novembre se tiendra en Suisse, à côté de Genève, un événement organisé par l'association Cyber Security Alliance. Donc, le 1er novembre, ce sera des trainings, et les 2 et 3 novembre se tiendra la conférence CyberSec, avec un programme tout à fait alléchant que je vous invite à retrouver sur le site web. Donc c'est www.cybersecuritealliance.ch. Alors bonus pour les auditeurs de Nos Limites Sécu, vous disposez d'un code promo qui vous donnera droit à 15% sur l'entrée de la conférence. Donc le code promo c'est NLS-CIPSEC16, donc tout en majuscule NLS-CIPSEC16.
Voilà. C'est nouveau ça, on a des sponsors maintenant à Nos Limites Sécu.
Ah non, on n'a pas de sponsors, on le fait comme ça parce qu'on a monté une sorte de petit partenariat avec cette conférence.
Oui, partenariat, sponsor, bon.
Ah ben non, mais on n'est pas rétribué.
Ah bon ?
Donc c'est pas du sponsoring.
Quand est-ce qu'on fait de la pub pour Coca ou McDo ?
Ben Nico en a fait la dernière fois pour je sais plus quoi.
Bon, donc on peut annoncer alors toutes les autres conférences en sécurité qui ne sont pas en Suisse.
Brucker,
on y pensera au prochain épisode.
Oui, exactement. Donc voilà. Donc si vous organisez une conférence et que vous souhaitez qu'on en parle, qu'on l'annonce, ce sera avec plaisir. Contactez-nous sur Twitter ou sur l'adresse mail contact@nolimitesecu.fr. Voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Xavier Mertens.
Bonjour à tous.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc Paul, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement à nos auditeurs ?
Oui, donc Paul Rascanière, mon job c'est l'analyse de malware, donc rétro-ingénierie, reverse engineering, peu importe le terme qu'on veut lui mettre, et essentiellement dans le but de l'analyse de malware, parce qu'on pourra l'évoquer, mais le reverse engineering peut être utilisé pour plusieurs buts, recherche de vulnérabilité, interopérabilité, peu importe. Et on va dire que moi, je me limite à la partie analyse de malware, et plus particulièrement sur tout ce qui est système Windows.
D'accord. Alors justement, si on parle de reverse engineering, tu as évoqué quelques points. Pourquoi est-ce qu'on peut faire du reverse, par exemple l'interopérabilité, il s'agit de quoi exactement ?
Typiquement, c'est dans le cas où on veut faire marcher ou faire lire des formats de fichiers dont on n'a pas le support nativement pour son OS alternatif, par exemple. Ou dernièrement, j'ai vu pas mal de gens qui bossaient sur quelque chose de tout bête, l'application Pokémon Go, qui n'est pas supportée sur Windows Phone, pour avoir un support Windows Phone de l'application que Nintendo ne veut pas fournir a priori. Et voilà quelques exemples pour l'interopérabilité.
Pokémon Go, c'est pas Nintendo, c'est Niantic.
Ah, autant pour moi.
Alors, quelles sont les méthodologies utilisées pour faire du reverse ?
Bon, essentiellement, il y en a deux pour moi. Il y a l'analyse statique, l'analyse dynamique, globalement. Donc, la première consiste à lire le code assembleur d'un programme. Donc là, c'est simplement de la lecture. Et la deuxième approche, l'analyse dynamique, elle, est davantage basée sur l'exécution de ce qu'on souhaite analyser. Donc là, on peut lire le code, mais en voyant l'état, ce qui se passe, instruction après instruction, bloc d'instruction après bloc d'instruction, et du coup, petit à petit, comprendre le fonctionnement de ce qu'on est en train d'analyser et d'avoir un dessin un peu plus clair du binaire.
Est-ce qu'il n'y en a pas une troisième qui est l'analyse concolique ou qui est plutôt une sous-classe d'une des deux précédentes?
Oui, après, il y a plein d'autres. Il y a aussi gagner des CTF. Il y a plein d'utilités à l'ingénierie inverse.
Mais par exemple, quand on essaye de désassembler un programme avec IDEA, c'est de l'analyse statique ou de l'analyse dynamique?
Ça, c'est statique.
D'accord.
Alors, là, tu vas avoir le code assembleur sous les yeux, t'exécutes rien, tu peux ouvrir IDEA sur ta machine, théoriquement, il ne va pas se passer grand-chose. Et là, tu vas pouvoir lire le code et, dans une utilisation standard, il n'est pas exécuté. Après, et IDEA alors... est capable de faire aussi de l'analyse dynamique.
Ah, donc là, tu exécutes dans un bac à sable, tu utilises de quel type de logiciel pour faire ça?
Machine virtuelle. Donc ça peut être VMware, VirtualBox, Hyper-V, peu importe le choix. En particulier pour ce qui est analyse de malware, si on analyse autre chose, c'est pas forcément une nécessité. Mais étant donné qu'on n'est pas fan de lancer les malwares sur nos machines, les machines virtuelles sont plutôt pratiques.
Ouais, elles sont plutôt indispensables, oui, enfin ça c'est évident. mais il n'y a pas besoin d'un autre logiciel que IDEA pour faire de l'analyse
en exécution. Alors là, après... ça va être chaque analyste va te sortir ses outils préférés. Moi, dans mon optique, c'est IDEA pour tout ce qui est analyse statique, récupérer le code assembleur. Et à côté, pour l'analyse dynamique, je pourrais utiliser IDEA, il le supporte, mais je suis pas un grand fan. Et là, j'utilise plutôt Immunity Debugger ou WinDBG, suivant les cas de figure.
Quand tu dis que tu fais de l'analyse de ton malware dans une VM, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des techniques d'évasion de sandbox, donc de VM? Est-ce que ça te pose réellement beaucoup de problèmes? Ou bien c'est encore... on sait facilement contourner le contournement mis en place par les méchants?
En fait, typiquement, sur des analyses très automatiques, là, on peut être un peu embêté. Sur ce qui est analyse plus manuelle, même en dynamique, généralement, il est assez facile de contourner les tests. On peut avoir une machine un peu hardenée où on n'a pas les additional tools de l'hyperviseur installés, etc., etc. On a une résolution acceptable et pas une résolution 800 par 600 qui laisse deviner qu'on n'est pas une machine physique. Mais globalement, j'ai assez peu de problèmes quand je fais de l'analyse manuelle. C'est plutôt pour tout ce qui est analyse automatique où là, on peut pas inverser un test à un endroit, on peut pas modifier à la volée en aveugle, on va dire, certains paramètres.
Mmh, ok.
Donc, alors, je dois dire aussi à nos auditeurs que tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Sécurité informatique et malware, donc analyse des menaces et mise en œuvre des contre-mesures. Et dans ce livre, tu préconises l'utilisation de pas mal d'outils. Donc, on a parlé d'IDEA. On a parlé, alors par exemple pour le sandboxing, tu proposes un tutoriel pour Qcos Sandbox.
Oui. En fait, l'avantage de Qcos Sandbox, c'est qu'il est open source, premièrement. Tout le monde peut l'installer et il n'y a pas à payer comme pour d'autres produits. Il est customisable, c'est-à-dire qu'on peut, comme machine virtuelle, mettre la machine qui ressemble plus à son environnement et pas forcément utiliser des machines fournies par les éditeurs. Et mine de rien, il fonctionne. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et du coup, c'est pour ça que je l'évoque dans mon livre.
Livre qui se lit comme un roman, hein, donc n'hésitez pas à vous précipiter en librairie.
Mais d'ailleurs, ton livre, il s'adresse plutôt à des gens qui font déjà de la reverse engineering ou alors plutôt des novices, pas en sécurité, mais des novices en reverse?
Plutôt à des novices. On va dire que là, une première moitié du livre, j'évoque pas forcément la partie reverse, mais plus les familles de malware, les outils de sandboxing, les phases de l'attaquant de reconnaissance, d'intrusion, passe de hache, etc. Donc là, on va dire que c'est de la sécurité sans forcément aller dans de l'assembleur. Et seulement sur la deuxième partie du livre, là, je vais évoquer le x86, le x64 et l'utilisation des outils d'analyse statique, dynamique, comment unpacker un malware, etc.
Ouais, et ce qu'il faut préciser, je ne sais pas si on l'a dit au début, c'est que le livre est en français.
Oui, exactement.
Moi, j'ai lu le livre, effectivement, le chapitre, le reverse engineering, c'est un seul chapitre dans le livre, mais ça correspond à, on va dire, l'expérience des équipes de réponse à incident ou des équipes sécurité dans les entreprises où le reverse engineering, en dehors des CTF, sinon c'est vraiment une arme de dernier recours. Parce que c'est quand même long, fastidieux, pas forcément couronné de succès à la fin. Enfin, c'est rare qu'on comprenne 100% d'un code, donc c'est vraiment une option de dernière chance.
Bah là, les parties intéressantes sur pourquoi faire du reverse, parce que souvent on me le demande et les gens voient pas forcément l'intérêt. Il y a plusieurs choses. Il y a par exemple, imaginons on passe un sample en sandbox et on a comme serveur où se connecte le malware supervilain.ru, par exemple. Et là, on va avoir tendance à se dire, je vais bloquer au niveau de mes proxys supervilain.ru. C'est le commandant de contrôle, c'est le serveur qui permet de donner les ordres au malware. Sauf qu'en fait, peut-être qu'il y en a un deuxième, un troisième, et en bloquant le premier, on vient de notifier à l'attaquant que potentiellement on fait une analyse déjà sur le sample en question. On vient de bloquer un de ces domaines, mais pour autant on n'a pas réellement contenu l'infection parce qu'il y a les deux autres domaines qui sont parfaitement accessibles et qui prendront le relais. Donc ça, c'est une des choses que si l'analyse avait été faite un peu plus à la main et un peu moins avec un outil automatique, la personne aurait tout de suite vu dans la config qu'il y a trois URL, aurait demandé le blocage des trois URL, et là on avait eu dans ce cas-là un containment beaucoup plus efficace qu'avec un outil automatique. Un exemple.
Et tu crois vraiment qu'on peut apprendre le reverse engineering à quelqu'un? Parce que le chapitre, pour résumer, hein, c'est voilà les 20 instructions Intel x86 les plus courantes, voilà les 20 API Windows à connaître, télécharger la version gratuite d'IDA et voilà quoi.
Tu peux pas dire qu'on peut pas apprendre à quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est l'espèce humaine qui apprend aux gens. On peut bien sûr apprendre la rétro-ingénierie. Après, est-ce qu'un livre suffit?
Est-ce qu'un chapitre dans un livre suffit à lancer les gens dans IDA
Mais ça, c'est un premier pas.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est un premier pas. Après, il y a quelque chose que tu peux t'inscrire à des formations.
Il y a quelque chose qu'il faut garder aussi en tête, c'est que l'éditeur, lui, son but, c'est de le vendre, hein, le livre, et pas à trois personnes.
C'est une bonne introduction, justement. Je pense, pour avoir lu le livre, je pense que la personne qui met le doigt dans l'engrenage et qui est intéressée après la lecture du chapitre va clairement elle-même s'orienter vers d'autres bouquins ou des sites internet, des tutoriaux, des choses comme ça. C'est un bon moyen de donner l'envie, en tout cas, à la personne qui est motivée.
Et puis, si c'est un domaine qu'on ne connaît pas, eh bien, ça permet d'en acquérir les bases.
Mais il y a beaucoup d'autres exemples où la rétro-ingénierie est quand même très utile, hein, Nicolas. Enfin, Paul a donné un exemple, mais il y a plein de cas où tu as plusieurs binaires sous la main. Peut-être y en a qui ont été falsifiés, d'autres pas. Tu as besoin de les comparer. Enfin, je veux dire, tu es obligé de faire de la rétro-ingénierie.
Non, tu peux comparer des graphes, tu peux comparer deux binaires sans avoir à les analyser manuellement.
Alors justement, tu parles d'un outil que j'ai trouvé très intéressant et qui permet en fait de comparer deux fichiers en regardant à peu près le pourcentage de ressemblance entre ces deux fichiers. Donc si on modifie par exemple ne serait-ce qu'un caractère dans un fichier, on change complètement le hash. Mais si on passe si on utilise cet outil, on va se rendre compte que ces deux fichiers sont semblables à 99%. Je me rappelle plus du nom de cet outil.
Je crois que tu parles de SSDeep.
C'est du fuzzy hashing.
Ouais. Et donc, du coup, là, le SSD, à l'opposé du hash, c'est-à-dire que ça te génère une empreinte, mais une petite modification va générer une petite modification dans l'empreinte. Alors que les hashes type MD5 ou peu importe lesquels, eux, le but, c'est qu'à la moindre petite modification, tu aies un hash, une empreinte qui est complètement différente. Donc là, effectivement, ça permet de reconnaître le pourcentage de ressemblance entre deux fichiers. Pas forcément des binaires, d'ailleurs. On peut le faire sur tout type de fichiers.
Non, mais ça permet de repérer des familles de code.
Et aussi, tu peux aussi travailler par import, par proximité entre les imports.
Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire ça, tu peux faire des graphes de flux aussi. Tu as plusieurs approches possibles. Le SSD, on va dire que c'est la plus facile où ça prend octet par octet les uns derrière les autres sans réfléchir.
La comparaison des imports, c'est un petit clin d'œil à l'antivirus français. J'invite les auditeurs à écouter l'épisode que nous avons enregistré à son sujet.
La question de pourquoi du reverse engineering est intéressante, et peut-être qu'on ne l'a pas assez creusé. Est-ce que tu peux illustrer avec des exemples? Dans quel cas des entreprises font appel à tes services, par exemple, pour faire du reverse de malware?
Nous, déjà, il y a des choses... la plus simple, la plus fréquente que j'ai, c'est malware, pas malware. C'est bien souvent les cas sur lesquels j'ai à travailler, ça commence avec cette simple question où le but c'est de répondre. Ensuite, on va dire que ça dépend un peu des cas de figure, mais il va y avoir les cas où le but ça va être de comprendre les fonctionnalités. Alors des fois toutes les fonctionnalités sont embarquées dans le malware, donc il est possible de les lister. Et par moment, on prend le cas d'un metteur-prêteur par exemple, là le malware en lui-même va attendre de recevoir ses fonctionnalités, va recevoir des librairies avec du code, et du coup dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le malware est capable de faire tout et n'importe quoi après. Il y a aussi pas mal de cas où on nous demande des informations sur le chiffrement, avec tout ce qu'on a vu comme ransomware, où là ça va être plutôt sur est-ce que les algos de chiffrement sont bien appliqués, est-ce que c'est pas un simple XOR ou peu importe. Ça, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Et sur des investigations un peu plus longue durée, le but, là, ça va plutôt être de créer des règles de détection. Donc, règles Yara. Oui, j'écoute.
Sur les rançons logicielles, tu as déjà trouvé des rançons logicielles avec une crypto bidon?
Oh, oui, ça arrive. Et des fois, c'est symétrique, par exemple. Mais le problème, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, c'est que ce genre de choses-là, on ne les voit pas sur les grosses campagnes très médiatiques qui ciblent des millions de personnes. Mais sur des cas beaucoup, beaucoup plus limités, on pourrait dire de rançongiciel ciblé, si le mot fait. Ou là, il n'est pas rare que ce soit fait à la main et assez vulgaire. Pas systématiquement, hein, mais c'est possible. Et après, on a aussi les cas de création de règles. Donc, règle IDS ou règle Yara, règle au niveau du flux réseau ou règle sur le binaire. Ou là, typiquement, pour comprendre le protocole réseau, mon approche est d'analyser le malware, de comprendre son protocole et après de faire des règles IDS pertinentes pour faire de la détection. Donc c'est assez varié les raisons pour lesquelles on va me demander d'analyser un fichier.
Et sur le cas malware, pas malware, ça reste un problème indécidable quand même. Enfin, je sais pas, Mimikatz, c'est un malware ou c'est pas un malware?
Bah, moi dans ce cas-là, je vais leur dire ce que ça fait et le client il décide en son âme et conscience de dans quelle case je le range. Mais des fois, il y a plus compliqué. Hein. Mimikatz, à la limite, on pourrait estimer que sur un réseau de production, il n'a rien à faire là. Pourquoi pas? Mais il y a des cas plus compliqués sur les PUP, les Potential Unwanted Programs, ou les toolbars. Je ne sais pas le mot français pour ce type de choses-là.
Les barres d'outils?
Non, mais c'était pour PUP. et donc, du coup, dans ce cas-là, là, c'est encore plus compliqué parce que ce n'est pas réellement malveillant, mais ça ouvre des pubs... de manière involontaire, enfin non sollicitée par l'utilisateur, ça va changer la page d'accueil du browser ou des choses de ce type-là. Et là, on est sur des cas encore plus retors que Mimikatz, à mes yeux.
Mais par contre, dans les cas que tu as cités, en fait, souvent il y a le temps qui est quand même important. Et typiquement, dans la question malware, pas malware, c'est une réponse à laquelle il faut répondre assez rapidement. Toi, en général, juste pour répondre à ça, tu mets combien de temps?
Ça va dépendre des cas, c'est vraiment très très variable. Ça peut aller de une heure à plusieurs jours. En fait, il y a des cas qui vont vraiment être très très longs. Si on prend le cas, par exemple, imaginons de la librairie Lime support MP3 sur lequel on rajoute 1% de code qui est une partie malveillante. Là, d'un coup, je cherche une aiguille dans une botte de foin et ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un Poison Ivy que j'ai déjà analysé 40 000 fois et que je vais reconnaître en 30 secondes. Quoi. Donc, c'est au cas par cas.
Bon, enfin, globalement, ça reste quand même pas... Enfin, le vrai reverse engineering, entre guillemets, c'est quand tu fais une réimplémentation complète d'un logiciel ou d'un format de fichier, comme tu citais au début, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un format de fichier propriétaire, je veux comprendre comment il marche. Ou là, c'est vraiment du reverse engineering, parce qu'il faut tout comprendre jusqu'au dernier bit.
Oui.
C'est vrai que l'analyse de malware, en particulier pour répondre à la question malware, pas malware, Ça ne demande pas de comprendre tous les détails. Non. Ça peut être très très rapide. Hein. Des fois, un simple string suffit.
Oui, mais après, les gens veulent comprendre qu'est-ce que fait la charge utile. Il y a des charges utiles qui sont beaucoup plus subtiles dans ce qu'elles font que simplement... c'est des trucs qui sont pas du tout des rançongiciels, par exemple. Donc, c'est quand même du boulot. Après, je suis d'accord, il s'agit pas de fabriquer uniquement par rétro-ingénierie tous les états d'un protocole de communication. Ça, effectivement, c'est un gros boulot.
Mais Nicolas,
c'est ce que
par
les
exemple,
gens font pour de l'interopérabilité.
Un cas d'exemple sur malware, c'est par exemple le cas des malwares qui utilisent des virtual file systems. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de comprendre le système de fichiers que le malware utilise et de pouvoir coder quelque chose pour pouvoir lire son contenu. Si on a 100 machines affectées, qu'on puisse parser les 100 systèmes virtuels, etc. Donc, on a des cas de figure où on va faire du reverse engineering dans le but de interopérabilité, où le but, c'est que je veux pouvoir manipuler le file system virtuel utilisé par un malware. Donc, on arrive quelquefois, c'est pas le plus courant, hein, mais quelquefois sur des cas où on fait en quelque sorte de l'interopérabilité avec du code malveillant. C'est un peu bizarre, mais ça arrive.
Oui, pour en revenir à l'interopérabilité, il me semble qu'il n'y avait pas un cas d'un gars qui avait analysé un botnet ou quelque chose comme ça et qui ensuite avait envoyé la commande au botnet de se désinstaller, de patcher les machines ou un truc comme ça.
Si, je l'ai lu ça.
Il y a un gars qui avait vraiment reversé entièrement le fonctionnement d'un virus pour s'en servir en fait, pour le transformer en vaccin en fait, et servir du virus contre lui-même pour patcher les machines qu'il infectait. Quoi. Donc là, effectivement, c'est un cas d'interopérabilité. Ouais. Mais...
Ah, ça n'installait pas un antivirus aussi, non? Il n'y avait pas un truc comme ça?
Si, ouais, il y avait un cas où il y a eu... je crois que c'était un serveur de commande compromis et du coup, la personne qui l'a compromis a déployé un antivirus sur les machines infectées.
Mais le fait qu'on te demande, une société te demande de faire donc un reverse sur un malware... Est-ce que ça ne veut pas dire que la sécurité même de la société est mise à mal parce qu'ils ne sont pas à même de restaurer leur environnement? Parce que moi, je suis dans une société...
Bon, non. Déjà, c'est une société qui est super à la pointe. Parce qu'une société qui s'est aperçue qu'elle avait un problème et qui a été capable d'isoler le logiciel malfaisant, ça, c'est très au-dessus de la moyenne.
C'est vrai. Parce que tu as un problème de sécurité... Tu restaures, tu réinstalles les machines, tu ne perds pas ton temps, tu ne mets pas autant d'énergie à essayer de trouver, de comprendre pourquoi le...
Ça va dépendre
pas la première
des figures. Ouais, et
puis c'est
surtout
10 minutes après, l'intrusion revient.
Mais c'est surtout si, imaginons, ils ont même une sandbox et qu'ils le passent en manière automatique et qu'ils commencent à avoir un serveur de commande qui blacklist et qu'ils commencent à voir au niveau de leur proxy qu'ils ont... 40 000 machines qui s'allument, là, généralement, il y a une inquiétude qui se crée et on demande des investigations approfondies.
Ouais, pas faux.
Il y a quand même une certaine maturité qui commence doucement à arriver et mettre un binaire sur malware.com ou avoir son QCO en interne ou alors avoir les moyens de payer des logiciels propriétaires qui font la même chose, pas forcément mieux, c'est... Ça reste à la portée d'à peu près toutes les équipes de sécurité, même si elles n'ont pas une maturité extraordinaire.
Mais d'ailleurs, sans trahir de secret, quel est le secteur d'activité qui fait le plus appel à toi?
J'allais poser la question.
Ouais, bah là, ça va dépendre. J'ai pas envie de répondre non plus. Et j'invoque le ND.
Non mais tous les secteurs, mais
non, il y a un peu tous les secteurs, mais si tu veux, moi j'ai mes fesses au Luxembourg, donc tu peux imaginer le type de secteur.
Ouais, ah, moi j'ai pas dit la banque pour ça. Moi j'ai juste dit la banque parce que souvent, bon bah ils veulent savoir, ils ont les moyens, ils vont même des fois étudier ce dont ont été victimes leurs clients. Donc maintenant il y a tous les secteurs dans lesquels il y a des enjeux, des problématiques, de l'argent. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des logiciels dont on n'entend pas parler qui sont là à des fins de fraude. Hein, et donc oubliez pas la fraude qui évidemment se voit pas forcément autant que les rançongiciels, par exemple, que tout le monde voit.
Et il y a aussi un autre élément qui peut aussi paraître étrange, mais c'est que généralement, aujourd'hui, la communication sur les incidents se fait de mieux en mieux. Pas forcément de la communication publique, mais même de la communication sur les certs nationaux des différents pays. Et généralement, quand on va présenter un cas qu'on a eu, on aime avoir des billes, on aime avoir un joli rapport, on aime pouvoir justifier de ce qu'on a fait, de l'analyse, etc. Donc du coup, c'est des cas de figure où on va avoir tendance à payer plus de personnes sur l'investigation, mais avoir derrière un rapport qui en vaut la peine à être présenté et montrer qu'on a fait quelque chose, etc., etc. Ou si on prend du PCI, en cas de compromission, on fait venir les personnes PFI ou autres. Et généralement, on aime bien avoir un avis autre que le PFI pour voir l'étendue des dégâts avant de les appeler ou en même temps qu'on les appelle. Donc il y a plein de cas de figure qui peuvent se présenter où on a besoin en interne d'une investigation plus avancée. J'ai utilisé plein d'acronymes, j'ai endormi tout le monde, c'est ça?
Non, on est tous très au fait de PCI-DSS.
Ouais, c'est PCI Forensic Investigator.
Ouais.
Et justement, tu parlais d'outils comme Cuckoo Sandbox et tu disais qu'il existe aussi des outils commerciaux pas forcément plus efficaces. Alors, l'outillage, c'est vraiment un problème dans le reverse engineering. Il y a eu quelques tentatives de faire des outils qui étaient
idiot-proof. Pour moi, le gros problème, c'est le coût des licences, premièrement. Et le deuxième gros problème, c'est que il n'y a rien de très collaboratif. Ou alors, il y a des projets. Hein. L'ANSI a sorti son propre projet. Mais ça reste encore vraiment les débuts. Et j'ai pas encore été convaincu par un outil collaboratif pour ces aspects-là.
De toute façon, c'est parce que le reverse engineering, c'est essentiellement... C'est une carte mentale et chacun a ses manières de travailler.
Ouais, mais on pourrait subdiviser en modules ou en choses comme ça et chacun analyserait sa partie. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais après on est obligé de se passer les morceaux et de les coller ensemble et c'est pas pratique.
Est-ce qu'il y a une communauté de reverse engineers, de personnes? Est-ce que si tu bloques par exemple sur une analyse, tu peux demander à pas un collègue mais une personne, contact, etc. de te filer un coup de main?
Il y a quasiment, c'est des choses informelles, hein. C'est comme certaines mailing lists ou trusted groups, mais oui, il y a la même chose.
Et openrce.org, c'est mort, non?
Je crois,
parce
oui.
Parce qu'à une époque, c'était très très actif comme forum, mais ouais. Maintenant...
Mais là, étant donné que je suis sur la partie plutôt analyse de malware, ça va être toute l'industrie autour de ça et les gens avec qui tu travailles depuis des années ou tu as fait des papiers en commun ou autre... avec qui je vais travailler, et même par moments, on s'échange des haches ou des choses comme ça pour pouvoir avancer sur certaines investigations.
Et est-ce que les problèmes, ce n'est pas les infrastructures comme Apple ou les processeurs qui ne sont pas supportés par IDEA?
IDEA, ça, c'est encore, il en supporte un certain nombre.
Mais tous les contrôleurs. Hein.
Non, ça, d'accord.
Mais tu peux étendre IDEA, faire un loader en Python, c'est extrêmement simple. Enfin, un processeur module.
Ouais. Faire.
Mais non, les CPU moins connus, comme tu dis, c'est typiquement pour tout ce qui est analyse de firmware et compagnie, ça prend du temps. Et là, d'un coup, rien que pour avoir un environnement utilisable, on en a quand même pour quelques longues heures de travail, même si c'est simple, en Python, tu fais un loader.
J'ai pas dit que c'était simple, mais il y a des gens qui le font pour des challenges stick, donc c'est du domaine du possible.
Oui, d'accord.
Et sur Apple, parce que sur Apple, il n'y a quand même pas les mêmes outils disponibles. Hein.
Là, je ne saurais pas.
Quand tu dis
bon.
pour reverser de l'Apple ou pour sur les...
Bah oui, pour reverser, que ce soit sur iOS ou...
Bah, c'est hyper facile, tu as même le code source maintenant.
Ah
tu
ouais
prends une appli iOS, tu as le code source.
Ouais, enfin ça c'est quand t'as le bitcode qui est publié, non?
Non.
C'est pas le cas de toutes les applis.
Non, tu dumpes une appli sur iOS, tu la passes dans IDEA avec les bons plugins et t'as quasiment le code source.
Et mais comment tu fais pour récupérer l'appli au départ?
Tu jailbreak ton terminal. Ah, oui. Tu dumps avec les outils de... Je crois que c'est Stephen Esser qui a...
Oui, non, mais je te dis pas... Je sais que c'est techniquement possible, mais ce que je veux dire, c'est que tu violes le DMCA, tu dois avoir des jailbreaks pour ton iPhone, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a iOS 10 qui sort, il y a une appli qui est compatible que iOS 10 et iPhone 7 qui va sortir en septembre, là. Comment tu fais, quoi? Parce que le truc est complètement chiffré avec une clé en dur dans le processeur. Et même si tu arrives à extraire la clé, ça reste, si tu as la clé, c'est une violation DMCA. Donc le problème, enfin, je sais pas si on va l'aborder parce que personne d'entre nous n'est juriste, mais il y a un vrai problème autour de la l'égalité du reverse engineering et des méthodes que tu utilises.
Dans mon
cas, quand c'est à des fins de sécurité, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas beaucoup de conditions générales d'utilisation sur les malwares, donc ça va.
Ouais, enfin, quand tu reverse un outil comme celui de NSO ou même ceux de la NSA, enfin, d'Equation Group, je veux dire, là, tu sais clairement qui est l'auteur. Qu'est-ce que tu risques face à NSO? C'est une entreprise commerciale qui vend à des gouvernements. Si elle veut te faire un procès, elle a le droit, quoi.
Ou bien si tu fais du reverse d'un logiciel qui s'avère ne pas être un malware.
Si tu analyses toutes les applis du Play Store juste pour vérifier qu'il n'y a pas de malware.
Ou si tu as un malware qui affiche un message de End User License Agreement ELA et que tu dois cliquer dessus pour l'accepter, ça rajoute à mon avis un poids, ça va forcer l'utilisateur à l'installer, à le lancer.
Et après, les questions des copyrights, elles n'avaient pas déjà été traitées avec les histoires des DVD et donc de la clé maître pour pouvoir jouer des DVD sur Linux? Ce genre de problématique, ça n'a pas été déjà réglé?
Mais non, parce que c'est des sujets où c'est tous les ans, il y a un nouveau truc qui arrive. Tu crois que c'est réglé un moment, mais l'évolution de la technologie et des législations fait que c'est toujours remis sur la table.
Mais après, pour la partie malware de criminels et malware d'entreprises qui a pignon sur eux, je pense pas. Je vois mal les gens se retourner contre toi, même NSO. Ça leur ferait une très très mauvaise publicité d'attaquer un mec qui fait de la reverse.
Bon, ils sont peut-être pas assez prêts, NSO. Hein.
Je pense que par contre, si tu reverses des malwares de certains gouvernements, on va dire plutôt à l'Est, là tu risques un peu ta vie. Mais au-delà de ça.
Ta vie si tu publies au mauvais endroit. Mais enfin, si tu dis rien à personne.
Tu reverses les derniers malwares du gouvernement russe et tu publies tout, je pense que. Bon,
je vous rappelle, c'est Vladimir qui vous parle. Hein.
Non, mais il y a des états avec lesquels il ne faut pas jouer, quoi.
Alors que si tu reverses Babar, finalement, c'est.
Enfin, ça fait une présentation mystique.
Bon, mais Babar, c'est facile à rétro-ingénérer.
Il n'est pas paqué, donc ça va, on gagne déjà ce temps-là.
Parlant de Babar, tu es quand même connu pour faire beaucoup de présentations, faire le tour du monde dans toutes les conférences, etc. Quand tu as le droit de présenter tes recherches ou ce que tu as trouvé à propos d'un malware, tu as besoin d'autorisation venant du client? Comment ça se passe? Ce sont des recherches purement privées, personnelles?
Il y a les deux cas de figure. Ouais. Il y a les cas où c'est sur temps perso et des samples que j'ai trouvés via des règles à moi ou autres. Donc là, je fais ce que je veux, entre guillemets. Et là, par contre, quand c'est les clients, oui, ils doivent nous autoriser à parler des cas. D'où, tout à l'heure, je fais appel à ONDA pour ne pas vous répondre.
OK.
Alors justement, en parlant de tes conférences, lors de la première BotConf, tu avais fait une conférence sur... des attaquants qui en fait s'étaient fait attaquer.
Oui, par moi.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, donc c'était ça va être la quatrième édition, donc il y a 4 ans, où j'avais travaillé sur un groupe qui utilisait le même malware, un Poison Ivy. Et en plus d'utiliser le même malware, ils utilisaient une infrastructure d'IP qui se suivent, donc point 1, point 2, point 3, etc. Donc ça m'a permis de faire le rapprochement et pas trop me tromper. Et serveur dédié à ça, des analyses que j'ai faites. Et en fait, il existe un certain nombre de vulnérabilités sur Poison Ivy qui permettent de prendre la main sur les serveurs de commande et voilà. Donc j'avais présenté ça à la première BotConf et en particulier les profils des cibles, des personnes ciblées par le malware, le nombre de personnes ciblées et un peu le design de l'infrastructure et la taille de l'infrastructure au moment des faits.
Mais c'était une vulnérabilité dans Poison Ivy ou une fonctionnalité
Vous
avez oublié de...
C'est dans la partie serveur, hein, vraiment. Donc pas dans le malware qui est posé sur les machines, oui. Mais sur le serveur de commande. Et non, c'est une vulnérabilité comme il y en a dans plein d'autres produits. Et en fait, c'est assez rare d'avoir la partie serveur des malwares, parce que c'est pas celle-là qui est distribuée aux cibles. Mais Poison Ivy est disponible sur Internet, donc on peut télécharger la partie client et serveur et trouver des bugs ou des fonctionnalités dedans.
Ça avait été une conférence très sympathique à suivre. Je sais pas si elle est disponible en vidéo d'ailleurs.
Si, je pense.
Qu'est-ce que tu vois? Enfin, bon, alors on parle beaucoup de malware, mais on va dire si on parle APT, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme tendance aujourd'hui à part les ransomware auxquels tout le monde est confronté? Mais on a parlé du packing, par exemple. Moi, je trouve il y a très très peu de codes qui sont packés aujourd'hui, probablement pour échapper aux analyses.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tendance de fond?
Dans les tendances de fond, il y a toujours les outils d'administration à distance. Ça, c'est quelque chose de simple, efficace, etc. Généralement.
Tu parles de quoi exactement là? Tu parles des trucs genre back office ou vraiment de PowerShell
PowerShell, je le vois passer, mais plutôt en post-exploitation ou en pré-exploitation. Mais pas pour le malware lui-même. À part quelques cas de ransomware en PowerShell que j'ai pu voir, globalement, c'est utilisé avant ou après la compromission. Mais c'est pas la chose qui va permettre de donner la main à l'attaquant périodiquement. Dans les choses que je vois, alors je sais pas si c'est parce que c'est plus à la mode ou parce que les gens en parlent plus ou parce qu'on a plus de clients de ce type-là, c'est pas mal de malware lié au point de vente, point of sale. Et du coup, ça c'est quelque chose que je n'avais quasiment jamais vu il y a quelques années. Donc ça, c'est malgré tout une tendance. Et il n'y a pas de raison que ça ne cible pas la France également.
Et l'Internet des objets?
Alors ça, j'en fais pour le fun, mais c'est quelque chose... On ne nous a pas demandé de travailler sur ce type de produit.
Il n'a jamais eu une demande, une demande officielle venant de ce genre d'appareil. Okay.
Non.
Non, mais en fait, il faut bien voir que dans l'Internet des objets, aujourd'hui, il y a suffisamment de trous de sécurité rigolos pour qu'il soit pas encore nécessaire de télécharger du logiciel malfaisant. Ce que je veux dire, c'est que on n'en est pas à ce niveau. Enfin, je me dis qu'on n'en est pas à ce niveau de maturité. On est seulement au fait que certaines personnes qui construisent des infrastructures ou des objets un peu touchy commencent à penser à la sécurité et font appel à des prestataires pour éviter de se faire ridiculiser dans une conférence comme ça a pu arriver à certains. Mais on n'en est pas encore peut-être au logiciel malfaisant parce qu'aujourd'hui, vous avez vu encore récemment tous les sextoys qui sont faits pôner, enfin, etc. Bon, les mecs rigolent sans avoir besoin de faire du logiciel malfaisant sur sextoy.
Mais j'ai vu aujourd'hui un partenariat entre un fabricant de frigos et Microsoft pour mettre Windows 10 sur les frigos.
Aïe.
C'est pas une blague.
Ouais, enfin, il est déjà dans les téléviseurs, hein, donc c'est...
Il y a plus d'Android que de Windows 10, mais moi j'ai testé Windows 10 IoT, ça tourne sur Raspberry Pi.
Ouais, hein,
mais bon, il faut 8 gigas minimum pour pouvoir l'installer, 8 gigas de flash, mais...
Ouais, de toute façon, ça reste anecdotique, Windows 10 sur les objets.
Et les ATM?
Alors ça, j'ai eu des cas sur ATM, et j'avais travaillé sur le cas qui a été publié par Microsoft entre-temps sur les ATM compromis, où là, l'attaquant a été capable de mettre une clé USB sur un ATM et installer un malware. En fait, il faut savoir que dans le cas qu'on a eu, les ATM, tous les ATM de la banque, ou au moins par région, je ne sais pas exactement vous dire, utilisaient la même clé pour ouvrir l'ATM. Parce que à maintenir autant de clés que d'ATM, c'est juste un cauchemar. Donc la personne a réussi, je ne sais pas comment, à avoir une de ces clés-là. Et donc a ouvert toute une série d'ATM pour déposer son malware dessus. Et à partir de ce moment-là, via un PIN particulier, il était capable d'avoir une interface permettant de purger les cassettes de l'ATM les unes derrière les autres.
Alors, il me semble qu'il ne pouvait pas choisir...
Ça c'est assez drôle. C'est qu'en fait, dans les ATM, il y a 5, 6, 7 cassettes, je ne sais plus exactement, et chaque cassette contient des billets d'une même valeur, c'est-à-dire des cassettes de 5 euros, des cassettes de 10, 20, etc. Et en fait, l'attaquant, enfin la personne qui était physiquement dans la banque pour retirer l'argent, se limitait à 3 cassettes. Parce qu'en fait, vider une cassette, ça prend plusieurs minutes. Hein, ça sort billet par billet, pas par bloc de 100 billets. Donc du coup, il se limitait à 3 et c'était assez drôle sur les caméras de surveillance parce que quand on voyait qu'il prenait la cassette des 5 euros, il était dégoûté parce qu'il devait attendre 5 minutes que tous les billets sortent de 5 euros pour pouvoir les reprendre la prochaine cassette dans la liste. Et du coup, c'était assez drôle de voir les réactions de la personne aux caméras de surveillance.
Pour la petite histoire, pas loin de chez moi, il y a, je crois aussi, il y a 2 ou 3 ans, quand un employé d'une banque a rechargé l'ATM, il s'est trompé de cassette. Et donc l'ATM, lui, un ATM, c'est bête. Il sait qu'on lui demande 15 euros. Il fait 3 fois la cassette 1 parce qu'il est censé avoir des billets de 5 euros dans cette cassette-là. Mais là, la personne avait inversé les cassettes. Et je ne sais plus si c'était 5 ou 50, mais l'ATM, on demandait 15 euros. On en recevait 150, en fait. Ça a fait un buzz. Mais alors, les gens ont été se ruer sur l'ATM. Il a été vidé en quelques minutes.
Mais comme quoi, hein, c'est les failles humaines.
Exactement.
Les plus spectaculaires.
Si tu demandais 100 euros, tu pouvais te retrouver.
Oh, oui, l'inverse pouvait être vrai aussi, tout à fait. Et alors, la banque, forcément, avait connaissance de toutes les transactions et a demandé au client de bien vouloir revenir à la banque, redéposer l'argent qu'ils avaient eu en trop. On n'a jamais su si tout le monde avait suivi le pas ou pas, mais voilà, pour la petite histoire.
Et vous avez fait, vous avez pas trouvé des logiciels malfaisants sur les ordinateurs de vote ?
En Belgique, tu parles ?
Dans n'importe quel pays ?
Non, en Belgique, c'est les Belgiques qui ont. C'est pas possible. Tout est encore sur disquette, alors c'est pas possible.
C'est juste que les disquettes, elles meurent et puis que ça marche plus.
Exactement.
Elles sont trop vieilles.
Les élections sont sur disquette ?
Les systèmes de vote, les votes sont enregistrés sur disquette. La disquette est mise sous scellé et est rapportée au centre de dépouillement, etc. J'ai pas.
Ils pourraient passer sur.
Des 3 pouces et demi
tout à fait.
Mais ils pourraient passer sur des clés USB.
Mais le projet de vote, je crois que dans la majorité des communes qui l'avaient mis en place. Ça a été annulé parce qu'ils se sont rendus compte que ça rajoutait un coût phénoménal à l'organisation des élections. Et donc, je pense que toutes les communes l'ont finalement abandonné jusqu'au moment où ils remettront ça sur la table et qu'un nouveau projet sera démarré à coups de millions d'euros pour déployer quelque chose de sérieux. Mais c'était des bons vieux PC avec lecteurs de disquettes, etc. Et authentiques.
Ouais, quand tu dis vieux, ouais, c'était vieux.
De toute façon, tu ne peux plus faire un virus qui tient sur une disquette aujourd'hui quand tu vois que la taille moyenne d'une page web, c'est 3 disquettes.
Aussi, ouais.
Et est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a déjà vu des... Paul, tu as déjà vu des logiciels malfaisants sur des automates ?
Non.
Moi, j'avais une autre question sur la reverse. Est-ce que tu fais de l'instrumentalisation
Ça arrive, oui.
Et qu'est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu utilises, par exemple, Frida ou des choses comme ça, ou pas trop ?
Du tout. Moi, j'utilise la plupart du temps, pour faire ce que j'ai à faire, des API d'inline hook, en fait. Je vais modifier le comportement des librairies de Microsoft, typiquement, pour loguer, manipuler, etc., etc. Comme ferait un malware, en fait.
Ah, d'accord, donc tu le fais directement en mémoire
Ouais. Directement en mémoire, je vais remplacer les librairies qui m'intéressent et faire ce que je veux faire dessus. Après, je sais que je connais beaucoup de personnes qui utilisent Frida et compagnie, et moi, c'est juste par question d'habitude où c'est ma manière de fonctionner, et on a pas mal d'outils en interne pour automatiser des tâches, et tous ces outils-là, je les ai faits avec cette même approche.
Okay. Si maintenant, pour revenir sur ton livre, une personne te contacte en disant voilà, je l'ai lu, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme ressource, comme allez, l'étape suivante pour démarrer dans une carrière de reverseur ?
Alors, c'est assez problématique parce que le plus simple, c'est de prendre les papiers qui sortent, les 10 papiers qui sortent tous les jours par tous les antivirus et autres. La difficulté, c'est de pouvoir récupérer le sample. C'est bien beau de suivre le rapport sorti, mais il faut que tu puisses avoir le fichier en même temps pour pouvoir faire ton analyse, comprendre ce qui se passe, etc. Et là, c'est un peu plus pénible à avoir, où globalement, la planète entière utilise Virus Total. Mais les comptes sont payants. Et du coup, ça, c'est la partie un peu compliquée, c'est de récupérer les échantillons.
Il faut avoir un compte VT Intelligence pour pouvoir downloader les samples, ouais.
Exactement. Après, il y a des alternatives, virus chers, etc., mais qui sont quand même moins bien faites, qui ont moins de samples, etc. Et donc, du coup, généralement, ça finit avec le hash sur Twitter et quelqu'un de sympa qui le récupère sur VirusTotal pour lui donner. C'est la partie compliquée, c'est de récupérer les souches exactes de celles décrites dans les articles. Mais après, pour démarrer, suivre les articles est une approche intéressante, je pense. Et après, c'est de monter à Honeypot et de récupérer ses propres samples et de les analyser.
C'est ce que tu fais ?
Moi, j'en ai en fait pas de très efficace, dans le sens où c'est des choses très grand public que je récupère. Et du coup, moi, je travaille pas forcément sur les aspects de volume, où on n'a pas la taille pour pouvoir gérer les volumes de ransomware et des choses comme ça. Donc, on va dire que c'est pas forcément très efficace. Mais après, je sais que tu es un spécialiste du spam et de la récupération par
spam. Je récupère pas mal, en effet. Je récupère pas mal. Mais comme tu dis, c'est du grand public. Donc, tu reçois 30 fois, 100 fois le même sample par jour. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais parfois, on tombe sur des choses assez. Des nouvelles choses. Comme par exemple, la nouvelle technique maintenant, les macros qui sont dans des fichiers publisher. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Oui.
Très sympa.
Il y a des mondes qui a installé Publisher. Enfin,
mais moi,
c'est par défaut.
C'est par défaut dans Office, mais le problème, c'est que dans les sandbox comme Paul utilise, etc. Ben les gens font une sandbox qui n'a que les tools nécessaires, donc Word, parce qu'en général c'est majorité de macros dans Word, mais tu n'installes pas Publisher dans ta sandbox. Donc maintenant les chercheurs, les analystes, etc. doivent modifier leur sandbox pour installer Publisher pour que l'extension .pub puisse être ouverte et être gérée par la sandbox.
Mais ça, les réinstalls de sandbox, c'est monnaie courante, parce que dès qu'il y a une nouvelle astuce anti-VM et qu'on doit modifier tel ou tel paramètre, ça fait partie des joies du sandboxing, de suivre l'actu et de patcher tes machines ou de les adapter en fonction.
Comme quoi, il est très important de pouvoir modifier ces sandbox.
Oui.
Et de l'écu.
Bah, typiquement, imaginons le cas que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps d'un malware qui... une société s'était fait compromise dans le passé, donc l'attaquant connaissait le nom de domaine de la société. Et qu'est-ce qu'il faisait dans les nouveaux malwares qu'il envoyait? Il vérifiait que la machine était bindée au domaine, ce qui n'est jamais le cas des sandbox. Donc voilà, et il avait des rapports de sandbox vides et il ne comprenait pas pourquoi. Et là, l'analyse manuelle a permis de se rendre compte qu'il checkait le domaine et que les machines virtuelles ne sont jamais sur le domaine.
Il y a quand même pas mal d'astuces.
Ah oui, des astuces, il y en a des milliers. Mais ça, c'est juste que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et que j'y pense.
Ce qui est fréquent aussi, c'est de vérifier les shellbacks, donc pour voir les derniers fichiers qui ont ouvert, par exemple. Forcément, une sandbox, tu viens de la démarrer, donc il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de fichiers récemment ouverts. Ce sont des choses comme ça. Vérifier s'il y a des icônes sur le desktop, si la souris bouge, si le clavier réagit, s'il y a quelqu'un qui a interagi avec l'OS.
Alors, en parlant d'outils, Paul, tu participes au développement d'outils open source. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, sauf que c'est pas moi spécialement qui travaille dessus, c'est Sébastien, mais oui, je peux en parler quand même. Donc, au CERT Sequoia, on développe Fastir, qui est un outil de collecte forensique, donc qui n'est pas réellement lié à l'analyse de malware, mais plutôt à la récupération d'artefacts forensiques, qui permettent ensuite éventuellement de trouver oui ou non si une machine est compromise et si un malware est disponible sur la machine. Donc, enfin, disponible, ça fait bizarre, vous ne trouvez pas ?
Présent.
Présent, voilà. Et en fait, dans la manière dont on a travaillé avec Sébastien, c'est que lui va plutôt s'occuper de la partie forensique, où potentiellement il y a énormément de machines à investiguer. Et à partir du moment où il trouve une DLL inconnue, quelque chose qui est... par exemple, qui n'est pas sur VT ou autre, à partir de ce moment-là, il me les donne et lui continue les investigations forensiques sur les autres machines pendant que moi, je peux passer mon temps sur la partie analyse du fichier, du ou des fichiers.
Bon, eh bien, ça me paraît très bien tout ça. Pour conclure.
Pour conclure, il ne faut pas hésiter à se lancer dans la rétro-ingénierie, c'est vachement marrant. Bon, évidemment, il n'y a pas tous les jours la possibilité d'en faire pour les clients, hein, faut être réaliste. Mais moi, je recommande aux auditeurs, à leurs heures perdues, de s'intéresser au sujet. Et un bon informaticien, c'est un bon exercice.
Voire d'aller à des formations.
Après, il y a le badge SIEA, il y a des formations continues chez moi et ailleurs. Oui, bien sûr. Non, mais ce n'était pas pour ça que je disais qu'il fallait s'y intéresser.
Et le livre, c'est la deuxième édition. Et
Oui, c'est la deuxième édition. Alors, il y a un truc qui est un peu retort, c'est que le titre a changé entre les deux éditions. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur c'est la deuxième édition de quel livre ? J'ai pas trouvé la première.
J'ai lu les deux. j'ai les deux à la maison. Et on voit une évolution. Donc, par exemple, dans la nouvelle édition, tu parles des ransomware. Donc, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il y aurait une troisième édition mise à jour avec les nouvelles techniques d'attaque, les nouveaux malwares, etc.
Alors là, j'ai d'autres projets. Il y aura sûrement un troisième livre, mais pas forcément sur ça. Là, c'est un teasing. Mais pourquoi pas, oui. Mais généralement, j'estime, et mon éditeur également, qu'une nouvelle édition est pertinente à partir du moment où il y a au moins 30% de nouveautés, changements, etc. Donc la première est sortie il y a 2-3 ans, je pense, donc peut-être dans 2-3 ans.
Ok. Et sur la discrétion, c'est le genre d'ouvrage qui est tiré à combien d'exemplaires ?
Sur la première...
Je ne te demande pas si tu es devenu riche avec, mais...
Tu n'y es pas riche en écrivant un livre. Mais je crois qu'on sur la première édition, donc on est autour des 1000 ventes.
Oui, c'est pour un ouvrage de reverse engineering en français,
Seconde édition va être traduite en espagnol également.
Ah, c'était une de mes questions. Alors, parce que des personnes, quand j'ai posté la revue sur mon blog, des personnes m'ont demandé si une version anglaise allait sortir.
Pas anglaise. Et pour plusieurs raisons, il y a déjà pas mal d'ouvrages en anglais qui sont intéressants et j'ai pas forcément intérêt à en rajouter un énième. Et l'autre, beaucoup plus pragmatique, c'est qu'ils n'ont pas de bureau d'édition dans les pays anglophones, donc non. Par contre, il sera traduit en espagnol.
Paul, Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir.